Comment réagit-on lorsque la maladie s'invite dans notre vie? Quand elle vient brusquement secouer notre train-train quotidien, nous rappelant à notre condition de mortel. Chez certains, l'urgence de vivre réveille des ressources insoupçonnées, donnant naissance à des récits de vie incroyables. À travers leurs témoignages, ces malades sont une source d'espoir pour tous ceux qui traversent les mêmes épreuves. Ils ont aussi plein de choses à nous apprendre sur ces pathologies que l'on préfère occulter. Bienvenue sur Histoire de malades. De malade. Pour ce troisième épisode, l'histoire de Davy. Adolescent, Davy a découvert l'alcool et a construit sa vie avec. Il s'est marié, a eu des enfants, jusqu'au jour où l'alcool a failli le tuer. Sa prise en charge médicale lui permet alors de comprendre qu'il souffre d'une maladie, qui a pour nom l'addiction. Il trouve une voie d'expression dans l'écriture et se forme comme patient expert. Aujourd'hui, il n'a de cesse de partager son expérience. Si lui s'en est sorti, alors d'autres en sont capables. Je vous laisse découvrir son témoignage.
Je m'appelle Davy, j'ai commencé à consommer à 14 ans de l'alcool, alors dans un contexte plutôt social, et puis assez rapidement dans la foulée du cannabis, beaucoup de cannabis, de plus en plus de cannabis, et puis en fait au fil du temps, Les doses d'alcool ont augmenté, les doses de cannabis ont augmenté. Vers 30 ans, j'ai commencé à consommer de la cocaïne, de plus en plus de cocaïne. Et puis, j'ai construit ma vie avec les produits. Souvent, on se demande pourquoi, au fond. Et je pense que j'avais besoin d'apaiser des tensions internes. Et je pense que les produits que je consommais me permettaient de taire. Et au fond, on se remplit de quelque chose pour éviter de faire ressortir quelque chose. Donc voilà, j'ai été dépendant à l'alcool, au cannabis et à la cocaïne de 15 ans à 39 ans. Pour ce qui est de ma construction professionnelle, sociale, familiale, contrairement aux représentations qu'on peut avoir sur l'alcoolodépendant ou le toxicomane, polytoxicomane, moi j'ai toujours travaillé, j'ai 4 enfants d'une même femme avec qui je suis resté que j'ai consommé. J'ai commencé à travailler à 19 ans, j'ai été hospitalisé à 39 ans et de 19 ans à 39 ans, j'ai travaillé tous les jours. Je me suis occupé de mes enfants chaque jour et j'ai traversé ma vie en vivant mais en marchant à côté. C'est-à-dire que je faisais en sorte pour que ce soit carré, en tout cas dégager l'image de quelqu'un qui va bien, mais j'allais très mal. Alors le 27 juin 2013, j'ai appelé le SAMU pour qu'il vienne me chercher. En fait, ça faisait plusieurs semaines que je ne bougeais plus de chez moi, que je mangeais plus et que j'étais tout simplement en train de mourir. Enfin, je sentais la mort vraiment de manière olfactive. J'avais des jambes qui avaient triplé de volume. J'étais jaune. Je mangeais un surimi par jour coupé en trois et puis je consommais que de l'alcool sans interruption significative. Si je me réveillais la nuit, je consommais. Si je ne savais plus où était la nuit, où était le jour. Et donc, mon ex-femme, depuis des semaines, me disait « faut que tu appelles le médecin, je vais appeler le médecin ». Je lui disais « si tu appelles le médecin, je me sauve ». À partir du moment où j'ai été emmené, je me suis laissé faire. Je suis arrivé là-bas avec un pronostic vital engagé. Un taux d'anémie d'un vieillard de 80 ans, une hépatite alcoolique, des pulsations à 150, 20 tensions artérielles et un délirium très mince. Donc il y a toute une période de ce début d'hospitalisation dont je ne me souviens pas trop. En tout cas, c'est plus ce qu'on m'a raconté que mes souvenirs propres. Une semaine après mon hospitalisation, quand j'ai commencé à reprendre conscience, j'ai un ami qui m'a offert un petit carnet en cuir, parce qu'il savait qu'il connaissait mon appétence pour l'écriture. Et donc au bout de 6-7 jours, j'ai commencé à écrire tous les soirs, chaque journée passée, et puis ce que je faisais à l'hôpital, mais surtout... ce que je ressentais, mes réflexions sur ce qui m'avait amené jusqu'ici. Et puis donc j'ai écrit pendant ces deux mois et demi d'hospitalisation. Et puis en sortant, au fil des mois, j'ai affiné et puis j'en ai fait un livre. Enfin, un petit peu un carnet de route ou carnet de déroute, je ne sais pas, mais quelque chose en tout cas qui me ressemble. Et sans doute à un moment à visée thérapeutique, mais aujourd'hui un beau témoignage d'espoir. Ça s'appelle Curriculum Vital, Confession d'un alcoolique. Donc je suis resté un mois en hépatologie et pendant la deuxième semaine, il y a ce qu'on appelle des équipes de liaison en addicto qui passent dans les services. Et il y a un médecin, le docteur Nusinovici, qui est passé dans ma chambre. Et puis un contact s'est noué. Et il m'a conseillé d'envisager une post-cure. Ça m'a permis de travailler sur moi, de comprendre un petit peu ma maladie et puis de prendre conscience aussi qu'en fait c'était... réellement une maladie. C'est pas simplement je suis alcoolo, mais c'est je suis malade. Et comment appréhender cette maladie, comment l'accepter, comment accepter de se soigner, comment accepter de faire le deuil d'une consommation, puisque dans mon cas c'était clair qu'il fallait vraiment que j'arrête de consommer. Donc j'ai pu travailler sur tout ça. Alors en sortant de post-cure en septembre 2013, je me suis rendu au XAPA d'Aubervilliers, dans lequel travaillait ce docteur Nusinovici. XAPA, c'est Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Puisque je l'avais choisi comme médecin addictologue, sans cette rencontre, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Dans ce type de maladie spécifique qui est l'addiction, je pense que ce médecin a su créer le lien suffisant. Pendant 2 ans et demi, j'ai suivi une psychothérapie hebdomadaire avec une psychologue. Et c'est aussi ça, au fond, les soins en addictologie sont des soins longs. On ne peut pas déconstruire en quelques semaines ou en quelques mois, quelque chose qui s'est construit pendant des années. La dépendance, ça se construit lentement, sournoisement. Et ce circuit de la récompense qui est complètement déréglé, il se dérègle aussi lentement. Et pour remettre de l'ordre dans tout ça, il faut aussi prendre le temps. Quelques mois après être sorti de post-cure, j'ai commencé à discuter avec le docteur Nusinovici de mon désir de me rendre utile, enfin de que ce que j'avais vécu pendant 25 ans ne serve pas à rien. C'était pas tant pour moi que me dire cette expérience, ce morceau de vie, ce quart de siècle, s'il pouvait servir à quelque chose, je ne me serais pas mis en danger pour rien. Et du coup, je me suis inscrit à un DU, diplôme universitaire en addictologie, à l'université Paris-Sud. Et puis j'ai proposé au XAPA d'Aubervilliers d'animer des ateliers de méditation pleine conscience. À l'époque, il y avait une nouvelle psychologue qui était arrivée, qui voulait mettre en place un groupe de parole. Donc on a décidé de coupler ces deux ateliers, ces deux propositions thérapeutiques, pour pouvoir sur un temps proposer aux patients d'avoir un travail d'introspection par le biais de la méditation et ensuite un travail d'expression avec le groupe de parole. Donc on a proposé aux patients ces ateliers pendant 6 ans, tous les mardis soirs. Et puis en 2016, on m'a proposé de faire partie de la première promotion des patients experts formés par la PHP, les hôpitaux publics parisiens. Donc j'ai fait partie de cette première promotion de patients experts. Pendant 6 ans, j'ai été bénévole au XAPA d'Aubervilliers, que ce soit sur les ateliers méditation groupe de parole ou sur un atelier d'écriture que j'ai mis en place par la suite. Et c'est ces 6 ans de bénévolat qui ont permis aussi, avec l'équipe, de se dire ben ça serait intéressant pour les patients, intéressant pour les soignants, de pouvoir avoir un patient expert dans l'équipe, donc un patient expert professionnel, en tout cas salarié. Donc on a créé en 6 ans un poste de patient expert. Parallèlement, j'étais salarié depuis 1993 à la ville de Paris et j'avais un job de responsable de communication et j'ai demandé un reclassement professionnel avec comme CV mon bouquin. La directrice de la DRH m'a proposé un poste de conseiller en addictologie. J'avais pour mission la formation des managers, la sensibilisation des agents de toutes les directions de la ville et l'accompagnement et le suivi des agents de la ville qui venaient vers nous de manière volontaire pour une problématique de conduite addictive liée au travail. Alors après, qu'est-ce que j'apporte Qu'est-ce que j'apporte en plus? Au fond, j'en sais rien, ce que j'apporte en plus. En tout cas, ce que j'ai perçu, c'est une forme d'authenticité, mais une authenticité réciproque. Moi, je suis authentique, mais les personnes sont aussi authentiques avec moi, parce qu'au fond, un peu comme si on ne pouvait pas se mentir. Une personne qui me dit j'ai envie d'arrêter mais j'ai peur d'arrêter, je sais pourquoi elle a peur et je le sais physiquement parce que j'ai ressenti moi-même. Une personne qui va me dire j'ai reconsommé et j'ai honte de moi, je vais l'entendre, je vais le comprendre, mais je vais aussi le ressentir. Et je pense que le fait qu'on ait ce vécu similaire, en tout cas cette expérience similaire, ça permet de se comprendre et au fond de conseiller différemment. Je pense que d'avoir quelqu'un qui a vécu la même chose, effectivement c'est déculpabilisant, mais également c'est un miroir d'espoir. En tout cas, on me l'a souvent dit, c'est possible. En tout cas, je suis une incarnation vivante de ce champ des possibles. Cette formation de patient expert m'a permis d'asseoir une identité professionnelle. C'est-à-dire que je savais que je voulais transmettre, accompagner, éventuellement aider mes pères, mais je ne savais pas ce que j'étais professionnellement, puisque cette notion de patient expert, c'est quand même assez nouveau et on n'en entendait pas trop parler, en tout cas en addicto. Donc je savais ce que je voulais faire, mais je ne savais pas comment m'identifier. Et cette formation m'a permis de créer une identité professionnelle. Et puis aussi, sans doute, travailler sur la prise de recul par rapport à ma maladie. Travailler la posture, travailler le témoignage. Aujourd'hui, j'interviens partout où on me demande. Ça peut m'arriver d'intervenir dans des entreprises sur la formation au manager. Ça peut m'arriver d'intervenir en milieu scolaire auprès de lycéens. C'est sur les risques liés aux conduites addictives. Alors aux conduites addictives en milieu professionnel ou aux conduites addictives en milieu scolaire. Aujourd'hui, en me formant, en travaillant, en étudiant, j'ai compris les mécanismes de l'addiction, et que ce soit l'alcool, que ce soit la cocaïne, que ce soit l'héroïne, que ce soit les achats, que ce soit le sexe, le fonctionnement est le même. En tout cas, la base du fonctionnement est la même. Donc ça, je sais l'expliquer. Après, pour ce qui est du médical, bien entendu, il y a des protocoles différents selon le produit consommé ou le comportement. Mais en tout cas, pour ce qui est de ma partie, je sais aujourd'hui intervenir auprès d'une personne, puisque je travaille sur cette notion de dépendance, de prison, et sur cette notion de motivation, valorisation, renarcissisation. Après, ce qui change de méthode de travail et d'accompagnement, c'est plus la personne elle-même et sa personnalité que le produit consommé. Souvent, on met en avant un produit. Moi, dans ma manière de travailler, je mets en avant une personne en mettant parfois le produit de côté ou le comportement de côté. Alors, pour ce qui est de mon expérience au XAPA d'Aubervilliers, je dirais aujourd'hui que ça a été facile. Enfin, ça a été facile, mais ça a mis 6 ans à se construire. Après, pour ce qui est de mes autres rencontres dans les structures, bien entendu, ça suscite des craintes, ça suscite des questionnements, et si ils reconsomment, et est-ce qu'il va avoir accès au dossier des patients, est-ce qu'il ne va pas être trop près des patients, est-ce qu'il ne va pas être contre nous, est-ce qu'il ne va pas nous juger, est-ce qu'il ne va pas mieux faire que nous. Après, je pense que ce sont des questions légitimes, et quand on change de paradigme, quand on change de manière de travailler, ça suscite toujours des questions, et effectivement, c'est pas toujours simple. Je pense qu'à un moment, pour changer les choses, il faut oser. Et je pense qu'il y a des professionnels de la santé qui ont osé, mais également des patients qui ont osé, puisque c'est pas facile de se confronter volontairement aux représentations des médecins et de la société en général. Mais oui, je pense que c'est une question de se connaître aussi. Derrière un soignant, au fil du temps, je vois un humain, et derrière un malade, au fil du temps, il voit un humain aussi. Et c'est encore une fois une histoire d'humanité et de lien. Ce que je fais aujourd'hui, ça me passionne. Mais vraiment, j'ai envie de transmettre l'espoir. Voilà, c'est encore une fois une question d'humanité, d'authenticité, don mutuel. En tout cas, je reçois autant de l'autre et que ce soit un patient ou un soignant que je peux donner.
C'était Histoire de malade, un podcast réalisé par Colline Léger avec l'aide d'Alexis Fernandez et Radio Moulin. À suivre dans le prochain épisode, l'histoire de Nicolas, parvenu à trouver un équilibre malgré sa schizophrénie. Merci à Davy pour sa confiance et son témoignage. Merci à toute l'équipe de Radio Moulin pour sa bonne humeur et tout particulièrement à Alexis pour sa patience et son aide précieuse. Merci à Carole pour son écoute et ses encouragements. Et enfin, merci à mes parents et à mon frère pour leur indéfectible soutien. Et merci à l'ensemble de mes proches.